Bonjour Tiffaine et très bon après-midi à vous.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout au long d'une vie qui a duré 77 années, Le Corbusier a eu pour obsession de modifier la manière d'envisager la ville. Cette ville, elle devait, selon lui, prendre de la hauteur pour offrir à ses habitants de l'air, du soleil et de la vue, dans des tours entourées de jardins et fonctionnant chacune comme un village avec ses commerces, sa crèche, son solarium et ses équipements sportifs. La vie de cet architecte tout entière tournée vers le travail, c'est François Chalin qui nous en a parlé lundi au cours d'une émission à retrouver en téléchargement. Et puis mardi, Tim Benton a évoqué pour nous les principes constructifs de Le Corbusier. Il a notamment parlé du concept du modulor et éclairci celui de la machine à habiter. Enfin, hier, nous nous sommes intéressés en particulier au rapport du Corbu avec différents pays qui n'étaient ni la Suisse où il est né, ni la France où il s'est établi, c'est-à-dire l'Inde, l'Algérie et plus généralement le pourtour méditerranéen. Et aujourd'hui ?
Le Corbusier ne venait pas le matin, pour commencer, parce que le matin, il écrivait, il peignait. Il était architecte, mais il était peintre et je pense que sa peinture comptait largement autant que son architecture.
Il y tenait beaucoup.
Il y tenait beaucoup et pour lui, c'était ce côté de plasticien qu'il trouvait par là même. Sa liberté, donc, l'expression. Puis il en était maître au moins. Tandis que l'architecture, il fallait l'exécuter et ça, il n'avait pas de clients ou très peu. Donc il n'en était pas maître du tout, il restait toujours sur des idées.
Aujourd'hui, une émission axée sur les arts. Nous parlerons en seconde partie d'un Corbusier penseur du musée avec Catherine de Smet qui a fait paraître un livre à ce sujet aux éditions Flammarion. Et en première partie, nous sommes avec Daniel Poli, professeur en histoire de l'architecture des écoles nationales supérieures d'architecture, également auteur du catalogue raisonné des dessins de Le Corbusier. On lui doit le livre « Ce labeur secret, Le Corbusier et le dessin » publié aux éditions Phage en 2015. Bienvenue à tous dans la compagnie des œuvres.
J'ai ce péché capital, c'est d'être assujetti aux choses visuelles. J'ai des yeux et tout ce qui est visuel, c'est-à-dire le dessin, la peinture, la sculpture, l'architecture, pour moi n'est qu'un seul phénomène, n'est-ce pas ? C'est symphonique, n'est-ce pas ? Et nous avons fait cette peinture qu'on appelle purisme, c'est un mot que je n'aime pas moi parce que ça fait triste quoi. Je suis pas d'accord du tout. C'est pas moi qui l'ai inventé, n'est-ce pas? Mais enfin, il s'est été baptisé comme ça, non pas par des adversaires, mais c'était aux enfants qui inventaient le mot. Moi, je n'avais pas idée de baptiser quelque chose que je fais, n'est-ce pas? Je n'ai pas trouvé des noms de baptême. Je fais pas du courbuisme, je fais pas d'isme, je fais du travail.
Entretien avec Georges Charansol du 1er novembre 1962. Bonjour Daniel Poli.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Ce qu'il faut rappeler d'entrée de jeu, c'est que Le Corbusier, eh ben, il passait des heures à dessiner, ce qu'on sait évidemment peu.
Oui, en fait, c'est un outil du quotidien, le dessin. Il dessine depuis l'enfance et tous les jours. C'est à la fois un mode d'expression, c'est à la fois un outil de recherche, évidemment. Aussi, c'est tout d'abord un outil de l'analyse. Enfin, il observe la nature, tout ce qui l'environne, en le crayonnant. Tout d'abord sur des petites feuilles de papier, ensuite dans des carnets. Enfin, au fil des 60 décennies de sa production, il remplit plusieurs milliers de pages, enfin 8000 feuilles plutôt, et des milliers de pages de carnet par des croquis, des dessins au crayon, enfin à la mine de plomb, aussi au pastel, etc. Enfin, en tout cas.
C'est vraiment un homme du carnet, comme un écrivain aurait son carnet dans la poche.
Oui, au quotidien. Il a aussi un petit ensemble de crayons de couleur et de crayons de papier. Et il l'utilise vraiment, c'est le prolongement de sa main, comme il le dit. C'est tout à fait un... c'est sa manière de communiquer aussi d'un projet d'architecture ou d'exprimer ce qu'il a envie de retenir. Enfin, c'est surtout aussi ce qui est très intéressant dans ce corpus. C'est surtout aussi un moyen de mémoriser au fil des voyages. Justement, il commence au fil des voyages en 1911 à remplir de nombreux carnets. Et tout ce qu'il observe, architecture, paysage, mode de vie aussi d'ailleurs, artisanat, il le crayonne, il la note aussi. Et ce qui est fort passionnant pour le chercheur, c'est de se rendre compte que ces croquis faits au fil des voyages vont alimenter le projet futur. Pas toujours, évidemment, mais on trouve des sources de projets réalisés plusieurs décennies après, notamment Ronchamp d'ailleurs, dans des croquis faits en 1911, par exemple à Villa Adriana Tivoli. Donc c'est très intéressant de voir comment le dessin est mémoire et comment les croquis de jeunesse, par exemple, nourrissent le projet futur. C'est une partie importante, oui.
Comment est-ce qu'on dessine des modes de vie?
Non, je voulais dire, là, j'ai tout un lapsus. Je voulais dire qu'il dessinait plutôt des, comment dire, il s'intéresse à l'ethnologie. En fait, il crayonne aussi des personnages, des costumes, je disais des peaux, par exemple.
Ça peut revenir aussi dans l'architecture ensuite?
Non, pas forcément.
Ou dans la peinture?
Dans la peinture, bien sûr. Notamment des, par exemple, ça c'est pas lui et mode de vie, mais il crayonne souvent des objets réactions, ce qu'il appelle des objets réaction poétique.
Alors, qu'est-ce que c'est un objet à réaction poétique?
Alors, ce sont par exemple des objets trouvés dans la nature, des coques de crabes, des racines, des coquillages comme des coques, etc. Des éléments, des bouts de bois. Et en effet, il récupère, si j'ose dire, il réutilise, il réinvestit ces éléments. Il les utilise dans le projet. Je reprends l'exemple de Ronchamp, puisque vous évoquiez...
On va parler peut-être un peu plus tard de Ronchamp aussi.
En tout cas,
c'est vrai que c'est important. Vous avez aussi écrit un livre sur Ronchamp.
Il utilise une coque de crabe, par exemple, s'en inspirer, pour réaliser la couverture de la chapelle. Mais en l'occurrence, ces objets réaction poétique, racines, bouts de bois, etc., sont intégrés dans des compositions plastiques à partir des années 30, dans des pâtures, justement. Il y a ce processus de nourriture, j'allais dire, si je puisse permettre l'expression,
de
nourriture du projet
bien pictural,
architectural, sculptural. Le dessin est vraiment le point de départ de l'œuvre d'art, de l'œuvre.
Alors pourquoi c'est un labeur secret? Puisque c'est comme ça que vous avez intitulé votre livre, Le Corbusier et le dessin, ce labeur secret.
Parce qu'il ne montre pas ses dessins pendant de longues périodes, il ne les expose pas, il ne les publie pas. Il publie quelques croquis de voyage d'Orient dans ses ouvrages théoriques comme vers une architecture, mais il y a un corpus énorme et il choisit le premier petit ouvrage, en fait, date de 1955, il est réalisé par Maurice Jardot, et la première exposition, il commence à exposer des dessins en 38, je crois, à New York, à la John Baker Gallery. C'est secret parce que c'est son
jardin secret.
Son jardin secret, et il ne les expose pas d'emblée. Il expose une série d'aquarelles en 1912 déjà, mais 11 aquarelles. Il conserve par devers lui, il les range dans les tiroirs des meubles à montre paternels, puisque voilà, il est d'une famille d'artisans horlogers, etc.
Mais pourtant, pour vous, au fond, ces dessins, ils sont plus intéressants presque que ces peintures.
Ah, totalement, oui, absolument, oui.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce que, d'abord, parce qu'on y décèle le processus de recherche. Ensuite, je trouve que sur le plan artistique, esthétique, ils ont plus de qualité plastique que...
Parce qu'ils sont faits comme ça rapidement?
Oui, ou même lorsqu'ils sont élaborés, les couleurs sont plus subtiles. La peinture, finalement, c'est une mise en couleur d'une composition. Je pense souvent chez Le Corbusier. Mais par exemple, dans la peinture puriste, il évoque le purisme dans les quelques mots que vous reprenez tout à l'heure. Les peintures puristes sont l'aboutissement de toute une série d'une dizaine, quinzaine, vingtaine de compositions, de plus en plus élaborées, mises en couleur d'ailleurs. Traité tracé régulateur et de la peinture est souvent une mise en couleur simplement de la composition, surtout dans la période puriste. C'est pas du tout une peinture qui exprime quelque chose. C'est vraiment une mise en couleur d'une composition dessinée, élaborée très longuement par le dessin.
Alors c'est quoi le purisme justement? Parce que c'est un mot qu'on a évoqué comme ça tout au long de la semaine, mais on ne l'a pas encore vraiment défini.
C'est un mot qui a été d'ailleurs utilisé par aux enfants. C'est aux
comme
enfants.
Il le disait dans l'archive, voilà, finalement, il ne revendique pas tellement le Corbusier, ce terme de purisme.
Néanmoins, aux enfants, il y a une influence énorme sur lui, parce que
donc le peintre, 18, aux enfants.
Le peintre Amédée aux enfants, parce que de 1918 à 1925, le Corbusier s'est lancé dans une production de nature morte puriste. Il explique qu'aux enfants lui a appris la peinture à lui. Il est en effet côte à côte à Andernos, dans le sud-ouest.
Le bassin d'Arcachon.
Dans le bassin d'Arcachon, sur le bassin d'Arcachon, il lui apprenait la technique de la peinture à l'huile. Et il a fait ses premières peintures puristes avec aux enfants. Et vous me demandez.
C'est quoi finalement l'idée? Comment est-ce qu'on pourrait définir le purisme?
C'est le principe d'une peinture entre guillemets pure, c'est-à-dire sans éléments décoratifs, sans idée même. La peinture n'est surtout pas décorative, elle est une construction. Pour aux enfants, elle est une construction, pour le Corbusier aussi d'ailleurs, une construction de l'espace sur la toile et une mise en volume des objets sur la toile dans la composition.
Des œuvres sur France Culture. Nous parlons d'un Corbusier dessinateur aujourd'hui avec vous, Daniel Poli, dessinateur évidemment de bâtiments, d'architecture, prenant des croquis dans les endroits où il se rend. Dessinateur aussi de femmes. Il va beaucoup faire des portraits féminins.
Absolument. Des nus féminins notamment. Et dans le corpus des quelques 8000 pièces que j'évoquais précédemment, on trouve plus de 1000 études de nus féminins, surtout de nus féminins d'ailleurs, plutôt que des portraits. Il y a quelques portraits de Joséphine Baker.
Alors de Joséphine Baker, il faut quand même le dire, absolument. Parce qu'il aurait eu une liaison avec Joséphine Baker et il l'a dessinée plusieurs fois parce qu'il l'a trouvée tellement belle.
Absolument, il l'a rencontrée sur le bateau entre Sao Paulo et Rio, je crois. J'oublie, excusez-moi. En tout cas, il est fasciné par cette femme, par la chanteuse, la danseuse, l'artiste, le personnage aussi qui est extrêmement généreux, extrêmement enthousiaste, etc. Donc il en dessine en effet de magnifiques portraits à la pointe d'argent, pardon, et des nus aussi d'ailleurs sur le bateau, aussi des portraits de sa compagne Yvonne, et sinon on a énormément d'études de nus féminins. C'est un thème qui il déclare d'ailleurs il écrit dans une lettre à son mentor Ritter, je vois tout en femme, en 1913 déjà, je vois tout en femme, je ne fais pas l'architecture, je dessine des femmes, enfin je veux dessiner des femmes, etc. Et il en crayonne. Les premières études sont des nus académiques d'ailleurs, qu'il fait durant ses années de formation. Il dessine beaucoup de nus académiques lorsqu'il séjourne à Paris en 1908-1909, qu'il travaille chez Perret à mi-temps. Et ensuite, le premier nu réalisé de visu, c'est en 1912 en rentrant en Suisse, où un ami, Octave Maté, qui a invité son ami dans le chalet où il demeure à plusieurs, qui lui demande de venir voir ce nu, qu'il va dessiner, qu'il va peindre. Deux jours après, d'ailleurs, il va faire une très très belle aquarelle ensuite.
Alors vous évoquez les années de jeunesse et les premiers temps à Paris. C'est vrai qu'il a beaucoup associé la peinture avec cette ville de Paris. Il l'a dessinée quand il était dans sa mansarde les premières années. Il a admiré la beauté plastique de cette ville.
Ah oui, oui. Il est tombé amoureux de Paris, en fait. Donc il a vécu en 1908 et 1909 en travaillant chez Perret à mi-temps, en passant des heures sur Notre-Dame. Il avait les clés du ministère de la Culture. Enfin, ministre de la Culture, je crois. Il avait les clés, en tout cas, et il se baladait sur les galeries dans les coursives, et il a rempli des carnets aussi sur Notre-Dame. Et lorsqu'il est retourné, après, il y a eu 4 ans de voyage, 3 ans de voyage, jusqu'à...
Où il a beaucoup dessiné aussi.
Voilà. Et au retour en Suisse, il a fait des allers-retours vers Paris, en écrivant Perret, je veux revenir y vivre, en écrivant à Ritter, je veux quitter la Suisse, enfin, c'était véritablement son rêve de retourner, de vivre à Paris, où il s'installe en 1917. Début 1917, il s'installe définitivement à Paris. Et il fait des phrases très lyriques et très belles sur la capitale, dont il fait aussi beaucoup de vues des toits parisiens, de Notre-Dame d'ailleurs aussi, des aquarelles magnifiques. Enfin, il est extrêmement enthousiaste.
Et ce qu'il aime à Paris, c'est que c'est la capitale mondial à cette époque-là des arts.
Bien sûr, et aussi un monde intellectuel qui l'intéresse beaucoup. Il explique qu'il va beaucoup au spectacle, beaucoup au concert d'ailleurs aussi. Et en effet, il parcourt les galeries, il est très influencé dès le premier séjour, il est très influencé par les courants picturaux. D'ailleurs aussi, quand il voyage en Allemagne, à Berlin, etc., il découvre les expressionnismes, etc. Enfin, il découvre tous les courants picturaux de l'époque. Et lorsqu'on parcourt assez rapidement les aquarelles, etc., qu'il a faites, on se rend compte qu'à la fois une influence de l'impressionnisme, du post-impressionnisme, des fauves, de Van Gogh, des expressionnistes allemands aussi, je le disais.
De Van Dongen.
Des Russes. Il est très, la production de 1913 est très influencée, par exemple, par Larionov et Goncharova. Il y a des aquarelles, des dessins et des aquarelles qui sont proches des études constructivistes. Enfin, il se nourrit de tous les courants picturaux avec avidité, je dirais.
Et Matisse, alors, parce que la couleur, c'est important chez Le Corbusier.
Absolument, absolument, oui. D'ailleurs, il dessine en couleur, comme il le dit, il parle. Il aime pas qu'on parle de... Enfin, il refuse le terme de dessin coloré. Et pour lui, l'emploi de la couleur est tout aussi important que pour ce mode d'expression. Donc, en effet, Matisse, Van Dongen, Van Gogh, enfin, c'est très amusant lorsqu'on parcourt le catalogue, notamment, c'est extrêmement manifeste de considérer cette influence de tous ces courants picturaux, donc, du 19e, du début du 20e siècle.
Mais alors, justement, la couleur, parce que quand on regarde les bâtiments de Le Corbusier, on voit des maisons blanches, on voit des immeubles en béton brut. Parfois, on voit un peu de couleur dans les cités radieuses. Les corridors sont en couleur. Parfois, les loggias sont également en couleur. Quel rapport dans son architecture avec la couleur, Daniel Poli?
La couleur a une grande importance dans son architecture. Les maisons blanches sont les maisons des années 20. Toutefois, à l'intérieur, l'intérieur de la maison Laroche est coloré par les tonalités puristes, justement. Des bleus pâles, des roses saumon pâles, des verts pâles, des couleurs assez pastels. Et la couleur a une vocation. Il le dit même pour Pessac d'ailleurs, donc en 25, qu'elle a une fonction constructive, le terme excessif, mais elle a une fonction plastique, enfin volumétrique extrêmement importante.
Elle donne une sensation volume, d'un espace.
Absolument, elle construit le volume d'une certaine manière, enfin visuellement évidemment, et elle individualise les volumes, elle les met en relation les uns avec les autres grâce à la couleur. Elle a une vocation extrêmement primordiale, et lorsqu'on vous évoquait les loggias, par exemple des cités radieuses, elle a la force plastique de la couleur est fondamentalement primordiale. Elle n'est pas du tout absente de son architecture, pas du tout, y compris dans Ronchamp, où une chapelle intérieure est totalement recouverte d'un rouge intense, dramatique, théâtral presque, qui donne quasiment une scénographie à l'espace quand on y pénètre. Enfin, il y a quasiment une théâtralisation du fait religieux dans cette chapelle secondaire à Ronchamp. Et dans plusieurs bâtiments, la plupart des bâtiments utilisent la couleur. À l'extérieur.
Est-ce qu'il y a des périodes picturales chez Le Corbusier, comme il y en a chez Picasso par exemple?
Bien sûr, oui, puisqu'il y a la période du purisme, donc même s'il rejette un peu le terme, il y a la période du purisme. Ensuite, une période qu'on pourrait qualifier des objets raxo-poétiques, parce que il y a toute une phase entre 28 et 32, 33, où il utilise énormément les objets raxo-poétiques, donc des formes organiques, c'est un autre langage plastique. Autant la période puriste est extrêmement structurée, extrêmement construite, extrêmement, je ne dirais pas si géométrique, autant la période suivante, donc donc des objets axopoétiques dans des années 30, est une période aux formes organiques, plastiques, extrêmement faites de courbes, de contre-courbes, de formes plus plus organiques, je le disais. Et puis, les années 40 sont une période de production beaucoup plus de formes monumentales, où, par exemple, les nus féminins sont des géantes, en fait, disproportionnées, avec aux mains extrêmement énormes, presque effrayantes parfois, presque monstrueuses. Et on a aussi une période qui est assez proche d'ailleurs des nus de Picasso. Ensuite, dans la dernière période, la dernière phase de sa production picturale, puisque nous évoquons la peinture, la production picturale est faite de très grands formats. On a une période assez longue, des années 50 aux années 65, qui est dite la période dite des taureaux, où il est...
Encore du Picasso, alors.
Voilà, absolument, totalement. Oui, où il est influencé et par Picasso et par sa période indienne.
Bon, et puis il y a son architecture qui est bien souvent une sculpture comme la chapelle de Ronchamp.
J'avais les pierres calcinées de l'église qu'on démolissait, qui avait été démolie par la guerre, n'est-ce pas ? Ces pierres calcinées ne peuvent pas porter. Et tout de même, je ne voulais pas les envoyer en char à rejoindre le ballast de la route où ça ne servait pas comme ballast. Alors j'ai employé ces murs, j'ai dit pour qu'ils tiennent, je les fais courbes. Hein. Et cette courbe m'est utile parce que je fais des courbes de nature acoustique, paysage acoustique. C'est une acoustique de l'espace. Et ça reçoit les quatre horizons qui sont différents les uns des autres. Et il y a le soleil levant, il y avait la désignation, c'est l'axe sur Jérusalem. L'autre, c'est le soleil levant et le soleil couchant, le nord et le sud. C'est avec ça qu'on compose. Et dedans, il n'y a pas un signe, pas un geste, pas un outil. Artificiel et créé par les siècles de déchéance de l'architecture que j'ai mis dans... Je n'en ai pas mis un seul de ces signes dans cette chapelle de Ronchamp. Et même la croix, je l'ai mise dans un endroit tout à fait significatif. Et au début, elle était mal placée, elle était dans l'axe, elle avait l'air solennelle, elle avait l'air bête. Tandis que je l'ai mise comme témoin à côté, et quand on pense qu'il y a un crucifié là-dessus, ça c'est dramatique.
Compagnie des œuvres et cet archive de Le Corbusier qui date de 1962. Daniel Poli, est-ce que ça a un sens de dire la chapelle de Ronchamp, c'est peut-être l'œuvre la plus plastique de Le Corbusier, ou est-ce que finalement toutes les œuvres de Le Corbusier sont plastiques depuis le début?
Non, ça a un sens parce que en effet c'est un projet qui est presque une architecture sculpture en quelque sorte, et il l'a vraiment traité comme un objet unique dans la composition de la mise en volume, s'inspirant d'une coque de crabe posée sous son bureau pour le volume de la toiture, suggérant dans les premiers croquis faits sur le site des formes qu'il appelle acoustiques, qui sont censées répondre au paysage et recevoir les ondes du paysage.
Parce que quand il a visité pour la première fois le site, faut rappeler que c'était une chapelle qui existait déjà, mais qui avait été très très endommagée pendant la guerre. Il y passe des heures et il arpente comme ça le terrain pendant
Absolument.
Très très longtemps en dessinant justement.
Absolument. Et il est aspiré par les horizons. Par les quatre horizons, et il veut véritablement faire une forme acoustique, je répète, pour créer cette sorte de relation quasiment cosmique, il faut bien le dire, avec la nature. Et donc il trace en effet les quatre traits du plan dès ce premier contact avec le site. Puis il y a toute une série de croquis, en effet, qui datent de 1950, où il a déjà l'idée de la volumétrie très plastique, très sculpturale, avec ses tours, lesquelles tours sont inspirées, enfin le système d'arrivée de lumière. Ça, c'est très intéressant. J'avais retrouvé dans les archives, à l'époque de mes études, dans les archives qui étaient en caisse encore à l'époque, un tout petit croquis qui évoquait le sérapéum de la villa Adriana à Tivoli.
Alors, le sérapéum, redites-nous de quoi il s'agit.
Il s'agit de l'abside dans le rocher, en fait, l'abside qui était creusée dans un rocher, l'abside, et qui était éclairée par une ouverture en haut, enfin dans le rocher, et la lumière descendait verticalement à l'intérieur de la basilique à Tivoli. Et donc il a conçu, enfin il s'est rappelé de ce système d'arrivée de lumière, un peu selon le principe d'un périscope en fait. Et il crayonne en disant j'avais repéré un truc comme ça à Tivoli en 1910. D'ailleurs il se trompe de date, c'était en 1911 au retour du voyage d'Orient. Et il a daté son voyage d'Orient de 1910 dans tous ses croquis postérieurs, alors qu'il est parti en 1911, c'est un détail. Et donc c'est une composition de à la fois de références de voyage, de volume qu'il a sous les yeux, je parlais de la coque de crabe, et puis d'un imaginaire qui répond justement à la nature environnante, pour créer cette forme qui en effet est une forme sculpturale et assez unique dans sa production, hein, quoi qu'il en soit.
Et là on comprend bien en effet comment tous ces carnets finalement sont de constants travaux préparatoires à son architecture. Il faut peut-être dire un mot de l'utilisation du béton justement pour cette coque de crabe, parce que à cette époque-là le béton c'est encore du vertical et de l'horizontal.
Absolument.
Et là il donne au béton une forme totalement inédite.
Absolument, et c'était très complexe, c'est la première fois qu'on a pu donner. Au même moment, ou peu de temps après, il y a tout un courant architectural dans le monde où on utilise des formes plastiques, je pense à l'Opéra de Sydney, mais c'est pas tout à fait les mêmes animes. Enfin, il y a pas mal il y a plusieurs exemples, en tout cas, de par le monde. Mais en effet, Ronchamp est un des tout premiers exemples où, grâce au béton, on peut composer ces formes extrêmement plastiques. C'est très compliqué, d'ailleurs. C'est expérimental, ce qu'il fait à Ronchamp. Il a eu des maçons, des ouvriers extrêmement talentueux. La coque de crabe a été faite avec des coffrages très complexes en
Donc
bois.
Donc il faut faire des coffrages de cette forme improbable.
Absolument,
c'est pas facile du tout.
Comme les spécialistes des bateaux, enfin
Les charpentiers de marine,
merci. Les charpentiers de marine, et il a voulu conserver la trace de ces planches, en fait, de ces poutres en bois, les nœuds du bois, etc., qui vont créer un béton extrêmement plastique, justement, qui a une beauté. Enfin, ce que Françoise Chauvet appelait la brutitude du béton, ou le brutalisme, en tout cas, selon le terme de Le Corbusier, du béton, qui est un élément plastique en soi, dans la composition architecturale.
On a l'impression que c'est finalement cette chapelle qui est presque l'objet le plus aimé par les gens qui visitent Le Corbusier, j'ai envie de dire par les Français, mais pas que par les Français. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'émotion qui est parfois un peu évacué avec Le Corbusier, ou c'est une émotion qui est une émotion quand même très verticale, enfin qui vous frappe, mais qui ne vous séduit pas toujours de prime abord, alors que là, avec la chapelle de Ronchamp, c'est autre chose.
Absolument. Il est vrai qu'elle est visitée par le monde entier, japonais, coréen, américain du Sud, en effet. Et parce que l'objet, enfin le bâtiment, je dis l'objet, le terme n'est pas très joli, mais le bâtiment est véritablement provoque une émotion. J'ai le souvenir y avoir été...
Émotion lyrique.
Une émotion lyrique, oui. J'ai le souvenir y avoir été avec Alvaro Siza. Enfin, je l'avais laissé...
Grand architecte portugais,
voilà. Pritzker. Et d'autres architectes, je ne me suis pas permis de commentaire. Hein, j'étais en retrait. Mais je sais qu'il était extrêmement ému de cette visite. Et toutes les personnes, que ce soit des architectes extrêmement habitués à visiter... quantité de bâtiments aux quatre coins du monde, ou des particuliers, etc. Ce sont les formes qui appellent cette émotion, et surtout cette relation à la nature, cette relation aux horizons. Lorsqu'on est à l'intérieur, par exemple, de la chapelle, il y a des vitrages qui sont à ras le sol et qui communiquent directement avec... on y voit l'herbe, etc., la suite de la colline, les arbres. Donc il y a une interrelation entre la nature et le bâtiment qui est extrêmement extrêmement prenante, qui est extrêmement... Et j'ai évoqué une sorte de relation au cosmos, le terme est un peu lyrique, mais c'est un peu ça. C'est même pas simplement du domaine du religieux, c'est du domaine du panthéisme. Enfin, et d'ailleurs, il y avait un temple... Enfin, la nature au temps romain.
Et, oui. Est-ce que l'autre grande architecture religieuse de Le Corbusier, c'est-à-dire le couvent de la Tourette, est dans ce sens-là aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là?
Je ne suis pas certaine qu'elle provoque la même émotion. Il y a ce rapport à la nature qui est très important, puisque le bâtiment est figé, enfin pas figé, il est planté. Il est planté sur la colline, sur la pente de la colline, et à certains endroits à l'extérieur, on a en effet cette interrelation avec l'environnement. Mais on n'a pas, enfin à mon sens, le visiteur ne ressent pas la même émotion. C'est un bâtiment beaucoup plus, on a plutôt une émotion intellectuelle en fait, oui. Quelque chose qui se passe de l'ordre du raisonnement, d'intellect.
Et on sait ce qui s'est passé de si particulier avec Ronchamp alors. Enfin, qu'est-ce qui, je sais pas, dans son esprit, là, alors on a envie de dire libéré, mais
chez Le Corbusier,
on va peut-être pas dire ce mot-là, oui. Mais on a l'impression d'une espèce de libération quand même.
Oui, ou une aspiration subite, une aspiration subite ou pas, une aspiration lorsqu'il était sur le site, une volonté de répondre à une demande. Alors que lui n'était pas religieux, en fait, enfin pratiquant, une volonté de répondre à une demande très précise, et surtout, je pense que c'est la réaction qu'il a eue lui-même par rapport à la nature environnante, par rapport aux quatre horizons qui étaient tous libres de construction. C'était véritablement un site totalement vierge de toute construction.
Merci beaucoup, Daniel Poli. Je rappelle qu'on vous doit donc notamment le livre « Ce labeur secret, Le Corbusier et le dessin » paru aux éditions Phage en 2015. Dans quelques minutes, on va parler du Corbu penseur du musée, mais tout de suite, c'est notre chronique du jeudi.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Une chronique qui nous est proposée aujourd'hui par Charlotte Chastel-Rousseau, conservatrice de la peinture hispanique au musée du Louvre. Bonjour à vous.
Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Vous nous parlez aujourd'hui de B306, mais de quoi s'agit-il exactement ?
Au moment où l'on célèbre dans une vaste exposition parisienne le monde nouveau de Charlotte Perrian, accompagné d'un passionnant catalogue, j'aimerais vous parler de la chaise longue basculante B306 de son petit nom. Il s'agit d'une pièce iconique du mobilier du XXe siècle, que vous avez certainement déjà vue. Cette chaise de repos, au profil sinueux et épuré, réalisée avec une armature de tube en acier chromé, tendue d'une toile matelassée.
Alors, vous nous parlez d'une chaise, mais quel rapport avec Le Corbusier ?
Cette chaise, dessinée par Perrian en 1928, a été conçue à partir d'un programme établi par Le Corbusier. Le brevet d'invention du système de coulissement de la chaise a d'ailleurs été déposé par Perrian à son nom, et au nom de Monsieur Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier, et de Monsieur André-Pierre Jeanneret, son cousin. Le Corbusier s'est très tôt intéressé à l'aménagement intérieur des habitations. Mais c'est seulement en 1929, et grâce au talent de Charlotte Perrian, qu'il expose ses premières pièces de mobilier. La chaise longue, la fameuse B306, trois autres sièges, une table et des casiers sont présentés au salon d'automne sous le titre d'équipement intérieur d'une habitation. On sait que c'est en étudiant le confort et la fonctionnalité d'un fauteuil médical que Perrian a modernisé radicalement la traditionnelle rocking chair pour concevoir sa fameuse chaise longue B306.
Et selon vous, le titre « équipement intérieur d'une habitation », ça n'est pas anodin?
Non Mathieu, ça n'est pas anodin. Ce titre en dit long sur la conception fonctionnaliste et minimaliste du mobilier que développent Le Corbusier, Perrian et Jeanneret. Je cite Corbu: un nouveau terme a remplacé le mot mobilier. Le mot nouveau, c'est équipement de la maison. L'équipement, c'est par l'analyse du problème, classer les différents éléments nécessaires à l'exploitation domestique. Les casiers constituent à eux seuls le mobilier de la maison, laissant un maximum de place disponible dans la pièce. Les sièges seuls demeurent et les tables.
Alors est-ce que Le Corbusier a rencontré le succès justement avec ces meubles?
Alors dans le cas de la chaise longue, il n'a pas vraiment rencontré le succès, ou en tout cas pas tout de suite. Les nouveaux matériaux, acier laqué, caoutchouc, chrome issu de l'aviation, devaient permettre aux trois designers d'envisager une production en série. Mais dans les années 1930, la chaise connaît un succès commercial très limité. il a fallu attendre 1959 pour que sa production en série soit relancée, avant que B306 ne devienne, à partir des années 1980, un classique du design du XXe siècle et le symbole d'un nouvel art de vivre.
En effet, c'est un objet devenu iconique. Merci beaucoup, Charlotte Chastel-Rousseau. À bientôt. Et c'est la Compagnie des œuvres que vous écoutez sur France Culture, alors que nous terminons une semaine consacrée à l'architecte et plasticien Le Corbusier, en compagnie à présent de Catherine De Smet, maîtresse de conférences HDR à l'Université Paris 8, autrice du livre Le Corbusier, penseur du musée, aux éditions Flammarion.
Ici, c'est un, vous avez un autre tableau qui est de Braque, n'est-ce pas ? C'est de la période héroïque du cubisme vers 1911, et à côté une tête nègre très belle, très, très digne.
Il est certain que la manière de présenter les tableaux a une raison d'être, j'en suis sûr.
Ah bon, bien sûr, moi je possède pas mal de tableaux que j'ai achetés au moment où ils ne coûtaient rien, n'est-ce pas ? Je n'attends pas que la bourse des tableaux ait rendu les gens fous. Ce sont des tableaux de 1911, et bien il fallait avoir l'œil ouvert à ce moment-là. Eh bien, ce sont des très beaux tableaux de gens qui étaient autrefois traités de fous et d'anti-français, qui sont maintenant les grands maîtres à la gloire de la France partout.
Lorsqu'on voit ce tableau aussi de Braque et celui qui est en face de Jeanneret, et lorsqu'on regarde également le reste de l'entrée, on s'aperçoit qu'il y a non pas de la dissymétrie, mais un manque de cette symétrie qui satisfait tellement les habitudes des gens. Est-ce que c'est une décision de l'esprit ou est-ce que c'est un sentiment qui vous vient ?
Alors, moi, tout le problème de la symétrie, vous savez, est à reconsidérer sur le plan de la terminologie, puisque le mot symétrie ne signifie que à l'Académie l'équivalent gauche-droite, alors que le mot symétrie veut dire au contraire équilibre. Et l'équilibre, c'est deux potentiels différents qui sont mis en présence l'un l'autre. Et c'est justement la non-égalité des deux facteurs qui rend le rapport pathétique et intéressant. Et bien sûr, moi, je suis toujours partisan de n'admettre la symétrie égale de part et d'autre que dans des moments absolument rares et exceptionnels. Par exemple, pour mettre le bon Dieu dedans, dans les temples, ça c'est entendu. C'est un moment où on a le droit de le faire, mais quand on le fait dans n'importe où, c'est pas la peine.
Voilà, la symétrie, c'est surtout pour mettre le bon Dieu dedans. Bonjour Catherine De Smet.
Bonjour.
Alors on va d'abord parler, avant de parler des musées, de son petit musée personnel, parce que Le Corbusier, si l'on en croit cette archive, était aussi un collectionneur, même un collectionneur avisé.
C'était un collectionneur, en effet. Mais ce qui est assez drôle, c'est que à la fin de sa vie, quand il évoque justement devant un auditoire de conservateurs ce que devrait être le musée selon lui, la collection à laquelle il fait le plus référence, c'est précisément la collection d'objets à réaction poétique, dont il dit que ça, au moins, c'est une collection qu'on peut se constituer sans dépenser un sou.
Et que tout le monde se constitue en se promenant, en allant sur la plage, on a tous des objets à réaction poétique chez nous.
Voilà, et la collection privée, notamment issue de la nature, lui semblait à privilégier peut-être plus encore que la collection d'art, qui finalement dans les projets de musée qu'il a conçus n'était sans doute pas ce qui le préoccupait le plus.
Alors, il était à une époque où certaines personnes s'élèvent un peu contre les musées. Adorno dit que ce sont des caveaux de famille des œuvres d'art. C'est pas du tout le cas de Le Corbusier. Pour lui, le musée, c'est une institution qui est bonne pour la société.
Elle est bonne à condition, justement, de la rénover. Hein, il n'est plus question de faire des palais, surtout pas des monuments. Donc le musée, ça peut être un hangar. Le musée est un espace le plus flexible possible. Mais en effet, le musée est un édifice à construire aussi pour lui. Et il a donc, tout au long de sa carrière, souhaité et pu réaliser quelques musées.
Donc il voit qu'il y a un problème avec le musée, tel qu'il est conçu, mais il pense pouvoir dépasser ce problème.
Et il essaie de le dépasser non seulement donc dans le dessin architectural, avec sa fameuse spirale carrée, le musée à croissance illimitée,
on va parler.
Musée sans façade, mais aussi à travers des contenus. C'est-à-dire qu'il ne veut pas se contenter d'être l'architecte qui dessine le bâtiment, il veut aussi être éventuellement le conservateur, le commissaire d'exposition, et donc il se mêle beaucoup de tout ce qui constitue les programmes.
Et c'est pas un peu paradoxal de dire à la fois il faut un hangar très flexible, on peut comme ça mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur, et dans le même temps de s'intéresser aux collections et à ce qui doit être à l'intérieur du musée?
De son point de vue, pas du tout, puisque justement la flexibilité permet de renouveler les expositions, permet de d'agencer comme on le souhaite. Et puis il faut distinguer évidemment ce qui lui permettait de répondre à des commandes et ce qui était ses propres préoccupations et ce qu'il essayait de proposer à ses interlocuteurs. Et on lui a demandé aussi des musées pour l'art, mais lui avait envie plutôt de proposer des musées didactiques. C'était ça qui apparemment le stimulait le plus.
Pourquoi, d'après vous?
Sans doute parce que ça lui permettait aussi de travailler les dispositifs de présentation.
Mmh. Et la muséographie l'intéressait beaucoup.
Beaucoup. Et puis parce qu'il défendait l'idée que ce qui était le plus nécessaire, c'était d'expliquer au public un certain nombre de données, et notamment des données économiques. Il avait été très marqué par sa collaboration brève avec Paul Hotlet, qui lui avait commandé, ainsi qu'à Jeanne Rey, en 27, le Mondanéum.
Paul Hotlet.
Voilà, le bibliographe belge qui avait établi un musée mondial à Bruxelles, qu'il voulait déplacer à Genève et agrandir, et pour lequel il avait donc commandé un édifice qui sera le projet du Mondanéum.
Le Mondanéum, c'est le muséum du monde, c'est ça?
Voilà, c'est un musée mondial, et Paul Hotlet avait un certain nombre d'idées assez précises de ce que devait être ce musée, qui devait, par exemple, se passer complètement d'originaux, travailler avec des reproductions, mais en revanche, insister beaucoup sur la présentation de graphiques et de données que le public pourrait ainsi mieux apprécier pour comprendre ce qu'il... Les idées, c'était un musée encyclopédique, hein, ce que voulait faire Hotlet. Mais donc, tout ça a beaucoup, je pense, marqué Le Corbusier. Et à partir de là, son idée de musée de la connaissance va se développer. Et il la défendra jusqu'au bout, tout en occasionnellement s'intéressant, parce qu'on le lui proposait ou lui demandait, des expositions ou des possibles musées d'art et d'art contemporain, par exemple.
Alors ça fait un petit peu penser cette idée d'un musée qui ne serait pas rempli d'originaux, mais constitué à partir de copies, à l'idée de Malraux, qui dans son musée imaginaire, invitait tout un chacun, grâce à la photographie, à juxtaposer des types d'œuvres très différentes pour créer son propre musée. Est-ce qu'on est un peu là-dedans aussi avec Le Corbusier, dont on sait qu'il avait des rapports d'ailleurs avec Malraux?
Absolument. On peut dire même que le poème électronique qui était une projection immersive, on dirait aujourd'hui, dans le pavillon Philips en 58 à Bruxelles, c'est en quelque sorte le musée imaginaire de Malraux projeté dans l'espace.
Et pourquoi? Parce que donc il faut rappeler que Le Corbusier, avec Yanis Xenakis qui travaillait pour lui, tous deux ont signé ce pavillon qui ressemble à une espèce de tente immense avec deux piquets comme ça, un petit peu déstructuré.
Un estomac, disait
Un estomac en forme de tente, c'est possible. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce pavillon?
Et donc, il y avait la projection, une projection de 8 minutes d'une succession d'images fixes et animées avec des effets colorés par des filtres. Une pièce sonore de Varèse. C'était une expérience immersive. Mais je pense que pour Le Corbusier, ça a été une sorte de... C'était le musée idéal. Et du reste, ce poème électronique va engendrer le projet d'un musée électronique qu'il va essayer de proposer à Chandigarh, notamment à Nehru, un musée électronique complètement dématérialisé.
Donc là, c'est une idée très moderne du musée, parce qu'aujourd'hui, tout est immersif dans la muséographie. Enfin, on essaye de plus en plus d'être dans cette idée-là. C'est visionnaire pour vous, la pensée du musée chez Le Corbusier, Catherine de Smet ?
En partie, oui, en effet. Alors, c'était des visions qu'il partageait aussi avec un certain nombre de ses interlocuteurs. Il a beaucoup appris des gens avec qui il a commercé, que ce soit des historiens de l'art, des conservateur, c'est aussi bien Henri Faucillon que Georges Salles ou Jean Cassou, mais aussi beaucoup Georges-Henri Rivière. Il a beaucoup travaillé avec les ethnographes.
Et qu'est-ce qu'il retire de ces collaborations?
Alors, il en retire la confirmation que le musée doit être un musée de la connaissance, qu'il faut mettre en place des dispositifs pédagogiques et dans les projets de musée pour l'Inde, ce qu'il a appris avec Georges-Henri Rivière va beaucoup compter.
Observez donc une chose. Vous voyez la porte qui est à 80 cm. Et vous voyez à côté un espace qui est occupé par un tableau d'une qualité particulière. Ça n'est pas impressionniste, c'est la peinture d'aujourd'hui, si l'on veut. Eh bien, ce tableau est là et il est là avec un potentiel poétique et énergétique au point de vue de l'espace extraordinaire. Je prétends qu'une peinture bien faite a pour effet de radier, de s'étendre, d'étendre les dimensions et de donner les dimensions, l'espace indicible. Voilà une raison d'être de la peinture très grande que les peintres ignorent souvent. Et je crois, moi, en tant qu'usager de peinture, que c'est précisément son rôle très grand, c'est d'apporter l'espace qui peut être indicible si le tableau est réussi.
Un petit peu comme les couleurs, nous disait tout à l'heure Daniel Poli, le tableau peut aussi servir, c'est une question que je vous pose, à créer de l'espace dans une habitation.
Certainement, et c'est peut-être là, dans les habitations, dans les lieux privés, que Le Corbusier imaginait le plus la présentation de l'art. C'est un peu une conclusion à laquelle j'arrive après cet examen de ces différentes idées.
Donc le didactique dans les musées, voilà. Et puis l'artistique chez les gens.
Exactement.
Alors il y a aussi chez les gens peut-être des grandes tentures murales qui s'appellent le mural nomade et qui est un exemple pour revisiter finalement l'idée et le concept du musée que propose Le Corbusier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Catherine de Smet, de quoi il s'agit avec ce mural nomade?
Je crois que ce concept de mural nomade est lié chez Le Corbusier à ses tapisseries. C'était des objets qu'on pouvait rouler et qui correspondaient au mode de vie contemporain, puisque c'était des murales qui pouvaient voyager avec leurs propriétaires. Et donc c'est l'idée aussi, peut-être on peut le rapprocher du musée ambulant qu'il a beaucoup défendu aussi.
Donc c'est lui qui les dessinait, qui peignait, qui les faisait ensuite tisser?
les tapisseries, il doit beaucoup à Marie Cutoli pour les tapisseries, qui était une femme très intéressante, à laquelle je me suis attachée parce qu'elle a beaucoup aidé Le Corbusier aussi au-delà des tapisseries dans certains projets d'exposition et de musée. Mais Marie Cutoli a milité pour un renouveau de la tapisserie et elle a notamment demandé à Le Corbusier de lui confier des cartons qui ont fait l'objet de créations ensuite de tapisseries.
Et d'ailleurs, dans l'agence, on le voit sur certaines photos, il y avait une grande tapisserie murale nomade qui était au fond de cet immense couloir dans le couvent qui servait d'agence d'architecture à Le Corbusier, rue de Sèvres. Alors, dans ce concept de murale nomade, il y a peut-être un autre livre qui résonne, c'est celui de Gottfried Semper, Der Stil, un texte presque oublié qui date de 1860, donc, où Semper stipulait une origine textile de l'architecture. Est-ce que ça vous parle un petit peu, ça, Catherine de Smet, ou pas du tout?
Disons que c'est assez éloigné de la manière dont j'ai pu aborder la question du musée chez Le Corbusier, puisque je ne suis pas du tout spécialiste d'architecture. Mmh. Alors j'ai lu Semper, c'est très intéressant, mais en l'occurrence, je me suis intéressée à des projets souvent non réalisés et pas à l'aspect architectural.
Mmh. Alors, faut dire que la plupart des projets n'ont pas été réalisés. Finalement, il y a 3 projets de musée qui sont arrivés à leur terme de Le Corbusier.
Effectivement, 3 seulement. Le premier, c'est le musée d'Abbindabad, qui a été inauguré en 1955.
Donc en Inde.
En Inde. Le musée de Tokyo, le musée d'art occidental de Tokyo, inauguré en 1959. Et puis, construit de façon quasi posthume, le musée de Chandigarh.
Est-ce qu'ils se ressemblent, ces 3 musées, notamment dans leur forme?
Plus ou moins. Plus ou moins.
Mmh, plus ou moins. Est-ce qu'on peut revenir alors sur l'idée du musée à croissance illimitée dont vous avez un tout petit peu commencé à nous parler tout à l'heure? C'est quoi ce musée à croissance illimitée?
Alors, c'est un musée sans façade, donc un musée qui évite absolument la monumentalité, un musée sans extérieur, ce qui n'est pas tout à fait juste, puisque, et ça rejoint ce que disait Daniel Poli sur l'importance de la nature, Le Corbusier imagine toujours son musée lié à la nature, d'une manière ou d'une autre. La nature est à l'extérieur, il est environné d'arbres, ou alors à Ahmedabad, par exemple, il est coiffé d'un jardin extraordinaire. Donc la nature est toujours présente, même pour des musées didactiques. Et ce musée à croissance illimitée, c'est une spirale carrée. Le Corbusier disait que le carré, c'était l'alternatif. Alors que si ça avait été rond, ça aurait été mécanique. Là, le fait que ce soit une spirale carrée, c'était l'alternatif. Donc, c'était beaucoup mieux pour le musée. Et c'était un musée qui devait pouvoir croître en fonction de l'accroissement des collections d'un musée, de manière très simple. C'était une idée assez pragmatique.
Mmh. Alors ça fait penser évidemment au Guggenheim, qui est une spirale ronde, mais c'est pas exactement la même chose, parce que à l'intérieur, il n'y a pas, comme au Guggenheim de New York, des collections présentées en spirale, si.
C'est fondamentalement différent, et en tout cas c'est ce que Le Corbusier essayait de souligner en disant, justement en dénonçant le fait que le Guggenheim avait été dessiné par un architecte qui n'aimait pas l'art, qui n'aimait pas la peinture, et qui avait fait une spirale ronde, donc mécanique, et quand les machines tombent en panne, c'est fini, alors que la spirale carrée alternative avait beaucoup plus d'avenir.
Thank you.
compagnie des œuvres sur France Culture et nous terminons notre série d'émissions avec vous, Catherine de Smet. Vous avez beaucoup travaillé sur les relations de Le Corbusier avec tout l'univers du livre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça en ces dernières minutes?
Alors effectivement, mes travaux antérieurs sur Le Corbusier portaient sur ses livres. J'ai publié en 2007 chez Lars Müller un livre qui s'intitulait « Vers une architecture du livre, Le Corbusier édition et mise en page ». Et en fait, le travail sur les musées est dans la continuité de cette étude sur des livres, puisque dans les deux cas, ce sont pour Le Corbusier, des outils de médiation. Et des outils, il le dit d'ailleurs, il emploie ces termes, et des outils qui peuvent tous les deux être aussi investis artistiquement. Dans les musées, Le Corbusier ne pensait pas forcément y introduire des œuvres. En revanche, le dispositif lui-même était l'occasion d'une création artistique. C'est le cas du poème électronique. Mmh. Et ça sera le cas dans un certain nombre de projets qu'il aura de musée.
Donc c'est la partie organisationnelle, pourrait-on dire, du livre aussi qui l'intéresse?
C'est le livre est aussi un outil didactique, hein, et dans les livres, il organise le texte, les images, de manière à effectuer une démonstration, et le musée, de la même manière, est l'occasion de faire des démonstrations, de donner des explications à l'aide à la fois de textes et d'images.
Donc ça doit être à la fois graphique et didactique, et le graphisme est au service évidemment du message. C'est-à-dire que c'est des livres, mais aussi des bâtiments, qui laissent finalement peut-être peu de place à l'interprétation du spectateur ou du lecteur. Le Corbusier nous met quand même dans un chemin qu'on doit suivre le plus possible. Et c'est ça qui fait de lui quelqu'un de très didactique.
Effectivement, alors dans certains cas, l'idée par exemple du mural de réhabilitation du 19e siècle, un mural photographique qu'il avait voulu introduire dans le hall du musée de Tokyo, projet qui n'aboutira pas mais qui aurait été assez étonnant, dans des projets de ce type, l'intention didactique est peut-être atténuée aussi ou ouverte par la création artistique qui accompagne ce dispositif.
Et c'est là où le spectateur peut projeter d'autres choses que ce qu'on lui demande de comprendre.
Mais effectivement, dans le poème électronique, les spectateurs étaient en quelque sorte pris au piège, et on peut dire qu'il y avait quelque chose d'un peu peut-être autoritaire dans la manière de dispenser l'information et d'immerger le spectateur dans quelque chose qui lui laissait assez peu de marge de manœuvre pendant les 8 minutes que durait la projection.
Est-ce que vous avez rechercher un petit peu les réactions justement des spectateurs à ce poème électronique ou au moins de la presse de l'époque?
Ça a été très bien reçu globalement, hein, ça a été très bien reçu et très bien reçu par beaucoup de jeunes gens que ça a inspiré. Et il est certain que le poème électronique a informé une partie des réflexions muséographiques des jeunes générations qui ont suivi.
Merci beaucoup Catherine de Smet. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences HDR à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et autrice de Le Corbusier, penseur du musée aux éditions Flammarion. C'était La Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière et Clément Daté. La semaine prochaine, nous reviendrons sur la vie et l'œuvre de la poétesse américaine Sylvia Plath. Mais tout de suite, on retrouve les sciences sur France Culture.